Sortie de boîte. Sortie de boîte, Alizée Lichty.
Il y a quelques semaines, on m'avait donné rendez-vous dans les locaux d'un grand établissement au centre-ville de Neuchâtel. Le rez-de-chaussée du bâtiment, je le connais bien, mais c'est au deuxième étage que j'ai été accueillie par la réceptionniste. Cette dernière m'a conduite dans une salle de conférence. Deux messieurs m'ont reçue et nous avons discuté en partageant un café. L'un était le porte-parole et l'autre mon interlocuteur. L'émission que je vous propose ce soir va traiter de billets, de cartes et de placements. Mon invité porte un costard et une cravate et dans son cas, on peut le dire, l'habit fait le moine. Cyril Meury a été nommé directeur de la région romande du BS le 1er janvier. Cyril Meury, dans le communiqué de presse qui a suivi votre nomination, on lit que vous êtes un pur produit de la filière de formation UBS, ça veut dire quoi? C'est que vous entrez dans le moule de la banque UBS?
J'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que tout mon parcours quasiment s'est fait chez UBS, avec une toute petite infidélité dans l'entreprise de mon papa. Mais sinon, ça fait 20 ans maintenant, ce qui ne me rajeunit pas chez UBS.
Vous venez de quelle région de Suisse romande?
Alors, je suis né à Delémont. On est resté à peu près une année dans le Jura et puis après on s'est exilé à La Chaux-de-Fonds, respectivement au Locle, où j'ai grandi.
Ça veut dire qu'en fait vous connaissez relativement bien l'arc jurassien?
J'essaye en tout cas, même si j'y vis plus, en tout cas je suis toujours très attaché à cette région.
Qu'est-ce que vous avez fait comme études?
Alors j'ai commencé par un apprentissage chez SBS à l'époque. À La Chaux-de-Fonds, et puis après, entre le Locle et La Chaux-de-Fonds, et puis après, je me suis reformé en emploi pour devenir économiste bancaire, et puis j'ai suivi un certain nombre d'autres formations internes pour continuer à me former.
Le domaine bancaire, c'est quelque chose qui vous a toujours attiré depuis votre plus jeune âge?
Pour être tout à fait honnête, je suis un peu tombé par hasard dedans. J'ai, étant jeune, voulu suivre les traces de mon papa, qui était footballeur professionnel, notamment à La Chaux-de-Fonds, donc ce qui fait qu'on s'est exilé de Delémont à La Chaux-de-Fonds. Et puis, n'ayant pas son talent, j'ai dû me résoudre à faire d'autres choses. Et en l'occurrence, ça s'est pas trop mal passé.
Le football, c'est quelque chose que vous avez gardé à côté de votre travail ou vous avez totalement laissé tomber?
Alors, j'ai laissé tomber à partir de 30 ans, mais c'est clair que j'ai grandi sur les terrains de football quasiment, et ça a été une vraie passion, et ça l'est encore aujourd'hui, mais simplement plutôt pour aller voir des matchs ou des choses comme ça.
Après votre apprentissage à l'UBS à Neuchâtel, la suite de votre parcours professionnel s'est déroulée comment?
Alors, suite à l'apprentissage, j'ai décidé d'aller travailler chez mon papa qui avait une entreprise de marketing dans le domaine du sport. On s'occupait notamment de gérer des budgets publicitaires pour certains clubs sportifs de renommée dans la région. Et puis, ça m'a permis effectivement de faire mes premières armes en tant que collaborateur. On avait notamment toute la partie suisse-alémanique à couvrir pour aller chercher des sponsors. Et comme je parlais relativement bien l'allemand, ça a été extrêmement formateur.
Ensuite, le retour au domaine bancaire, il s'est effectué quand?
Alors j'ai été engagé ici à Neuchâtel par quelqu'un que je connaissais bien dans le domaine du football. Et puis j'ai commencé comme conseiller à la clientèle en 1999 ici à Neuchâtel.
Conseiller à la clientèle, ça consiste en quoi exactement?
Eh bien vous conseillez les clients en fonction de leurs besoins, donc qui peuvent être de tout type, des besoins on va dire de simples pour l'octroi d'une carte de crédit, pour des produits de placement, pour l'acquisition d'un bien immobilier, enfin c'est relativement vaste.
Ensuite vous vous sentiez bien dans cette entreprise et vous avez décidé de gravir les échelons, ça s'est passé comment?
Je dirais que ça s'est fait tout naturellement. UBS est un employeur qui offre pas mal de perspectives de par son côté tourné vers l'international. Donc moi, j'ai vraiment pu profiter pleinement de cette entreprise à large échelle. Donc j'ai fait 2 ans à Neuchâtel et puis après, j'ai été happé, si je puis m'exprimer ainsi, à Lausanne, où j'ai eu la possibilité très jeune d'avoir une équipe à conduire. Où j'ai fourbi, on va dire, mes premières armes. C'était extrêmement intéressant. Et puis, ça m'a donné aussi goût à continuer à me former et puis à progresser au sein de cette entreprise.
Ensuite, vous avez eu un poste à responsabilité en Valais, c'est juste?
Alors ça, c'est dernièrement. C'est le dernier poste que j'ai quitté l'année passée. Donc, j'étais responsable du Valais pour la clientèle privée.
Et puis, en fin d'année passée, on vous nomine comme directeur de la région romande d'UBS. C'était un peu le job de vos rêves?
Oui, on peut le dire comme ça, même si j'ai jamais raisonné en fait avec un job de rêve. Mais c'est clair que ça s'est fait naturellement avec mon prédécesseur qui est parti en retraite. Donc j'ai eu la chance de pouvoir reprendre ce job. J'aime à dire que je suis un enfant de la Romandie pour avoir vécu dans quatre cantons romands pendant pas mal de temps. C'est une région que j'aime et puis c'est une région dans laquelle j'adore vivre.
Vous avez fait un peu toutes les régions de la Suisse romande, vous venez de le dire. Laquelle reste votre favorite?
Là, c'est une question piège. Je crois que réellement, je le pense sincèrement, la Romandie est magnifique et chaque région, chaque canton a beaucoup à offrir. Donc, j'habite maintenant à Puy, c'est clair, la proximité de mon bureau qui se trouve à Lausanne. Donc, j'adore me promener au bord du lac. Par exemple, j'ai toute ma famille ou la majeure partie de ma famille qui se trouve à Neuchâtel. Là aussi, hier, j'ai profité de me promener au bord du lac. Donc, il y a une foultitude d'activités qui sont passionnantes à faire dans tous les cantons romands.
On va entamer le sujet qui nous intéresse ce soir. Donc, vous avez pris ce poste de directeur de la région romande d'UBS. Avant ça, vous avez effectué un voyage à l'étranger. Dans quel but ?
Disons, c'était pour me préparer à la reprise de ces activités. Donc, j'ai eu la chance d'aller me former à l'étranger, notamment à Francfort, chez UBS, où j'ai eu tout loisir de planifier la suite et puis de passer dans des segments dans lesquels j'avais encore pas travaillé, qui sont aujourd'hui extrêmement précieux dans mes activités actuelles.
C'est important pour votre nouvelle fonction, justement, de connaître un petit peu tous les divers métiers qui existent à l'UBS ?
Complètement. Si vous voulez, vous ne devez pas être un spécialiste de tout, mais vous devez quand même connaître la majeure partie des activités, parce que dans le cadre de mon travail, c'est clair, je suis appelé à être aussi bien en contact avec le monde politique, le monde économique, celui des entreprises, celui des clients privés. Donc je pense qu'une connaissance générale à large échelle est absolument nécessaire.
Qu'est-ce que vous souhaitez insuffler à cette grande entreprise ?
Écoutez, c'est mes valeurs déjà, tout d'abord, c'est de faire de la notion de plaisir un leitmotiv dans les activités quotidiennes. C'est ce qui m'a toujours accompagné tout au long de ma carrière. Je raisonnais pas en job, mais par contre, mon parcours, mon développement s'est fait par rapport à la notion de plaisir. Quand j'avais du plaisir, effectivement, je donnais le meilleur de moi-même, et puis lorsque j'en avais moins, je cherchais à me développer. Donc ça, c'est une première chose que j'aimerais insuffler. Et puis ensuite, je pense que cette culture, entre guillemets, cette appartenance locale, cette appartenance à la grande banque me paraît aussi extrêmement importante.
Est-ce que vous avez une marge de manœuvre dans votre travail ou est-ce que vous devez suivre un schéma des tâches régulières ?
Si vous voulez, on a évidemment, mon rôle, c'est d'appliquer la stratégie définie par UBS, mais à l'intérieur de ce cadre-là, on a toute latitude pour mettre en œuvre ça en fonction des particularités de la région.
C'est le cas aussi dans les échelons plus bas ?
Oui, ça fait aussi partie, je pense, de quelque chose que j'ai dans mon ADN et auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est de laisser une certaine flexibilité à nos agences, à nos zones économiques, pour que les gens se retrouvent et puissent tenir compte, encore une fois, des particularités régionales.
Si je vous demande, Cyril Meury, quelles sont vos tâches au quotidien, votre journée type ?
Il n'y a pas de journée type. Il y a différentes activités qui se déroulent dans une semaine. Il y a des activités pures de clientèle. Donc, c'est de voir des clients, tout simplement, avec les conseillers UBS, que ce soit au niveau de la gestion de fortune, que ce soit au niveau de la clientèle entreprise, que ce soit au niveau de la clientèle privée. Il y a des activités, on va dire, plus internes. Donc, en lien avec la bonne gouvernance de l'entreprise, en lien avec le fait de créer une passerelle entre la stratégie suisse et la stratégie dans les différents cantons où on est en Romandie. Je vois beaucoup de collaborateurs et puis je suis évidemment en responsable de la bonne marche des affaires.
Alors on le sait, la société, les gens évoluent en fonction de la digitalisation, de la numérisation. Est-ce qu'UBS évolue aussi dans ce sens-là ?
Alors évidemment, on est complètement dedans, donc on a investi massivement dans la digitalisation et pas seulement en espèces sonnantes et trébuchantes, mais aussi vraiment dans la volonté de former nos collaborateurs parce que c'est clair, il y a les habitudes des clients évoluent et puis on doit absolument s'adapter à ça.
Le but, est-ce que c'est d'offrir aux clients plusieurs canaux où ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils vont faire et où ils vont le faire ?
Complètement. Donc le but, c'est de dire, en fonction des besoins des clients, c'est évidemment eux qui décident comment ils souhaitent nous solliciter, comment ils souhaitent entrer en contact avec UBS. Ça peut se faire indistinctement par les canaux électroniques ou via une rencontre physique.
Ces différentes façons de procéder, c'est aussi une manière de vous démarquer de vos concurrents ?
Bah disons, je pense que c'est la grande tendance dans l'industrie financière de manière générale, mais c'est vrai qu'on a investi très vite et beaucoup dans ces technologies parce que ça répondait encore une fois à un besoin de la clientèle.
Et puis vous allez même au-delà de l'activité bancaire puisque vous avez mis sur pied une application de coffre-fort virtuel. Vous pouvez nous expliquer à quoi elle sert ?
Il faut s'imaginer tout simplement une sorte de coffre-fort qui vous permet virtuel et qui vous permet en fait notamment de scanner tous les documents importants de la vie quotidienne. Je vous donne un petit exemple. Vous vous trouvez par exemple à la pharmacie et puis vous avez évidemment pas votre carte d'assuré. Donc simplement dans cette application, eh bien vous pouvez montrer à la pharmacienne le document que vous aurez simplement dans votre smartphone. Donc c'est une application qui permet de se sortir de l'une ou l'autre situation. Et je vous raconte peut-être une petite anecdote. J'étais à l'étranger, j'ai perdu un document d'identité. Et puis j'avais au préalable, par chance, scanné ma pièce d'identité. Et puis lors d'un contrôle, j'ai pu montrer ce document. Et c'est ce qui m'a permis de ne pas avoir le moindre problème.
On a aussi entendu parler de Twint, notamment en raison du sketch de l'humoriste Thomas Wiesel. Mais si on doit l'expliquer à nos auditeurs, Twint c'est quoi ?
Twint, c'est un moyen de paiement simple de privé à privé ou de privé à entreprise. Donc concrètement, sans numéraire, vous pouvez effectuer des paiements quasiment partout, très simplement.
C'est quelque chose qui existe aussi chez vos concurrents. C'est pas un pur produit bancaire UBS.
Non, c'est vrai. Simplement, UBS a été un tout petit peu précurseur en la matière. On a vraiment voulu développer avec d'autres partenaires ce moyen de paiement. Et force est de constater, quand on voit le nombre d'utilisateurs aujourd'hui, je pense qu'on était dans le juste. Mais je crois que de manière générale, la place financière suisse doit développer des synergies entre les établissements. Et je me réjouis évidemment que d'autres partenaires fassent partie de ce produit.
On a évoqué les nouveautés en ce qui concerne les clients à l'UBS. On va peut-être parler maintenant des infrastructures. Les agences en Suisse romande ont bien évolué ces dernières années, surtout au niveau de l'aménagement. Pourquoi ?
C'était une volonté de rénover quelque peu notre réseau d'agences. Donc on a refait l'intégralité de nos 300 agences. Et puis c'était de donner, on va dire, une sorte de fil rouge, une sorte d'identité UBS où les clients se retrouvent, qu'ils aillent indistinctement à Saint-Gall, au Locle ou à Lausanne. Il y avait une même logique chez UBS.
Nous vous proposons d'entrer quelques minutes avec Jean-Michel Probst dans la salle des coffres d'UBS de Neuchâtel en compagnie de Mirko Mandola, directeur adjoint de la succursale, et de Jean-Raphaël Fontana, responsable de la communication pour la Suisse romande.
Sortie de boîte.
Oui, après, ce qui se passe aussi, c'est qu'on organise ça de façon très ponctuelle pour des événements particuliers, parce que le client qui vient pour utiliser son coffre, il aime aussi beaucoup la discrétion. C'est quand même l'un des principes du coffre.
Des choses, oui.
Donc, c'est pour ça que ça ne se visite pas tous les jours, n'importe comment.
On badge également ici, hein, pour entrer.
Oui, j'imagine, merci.
Voilà, et là, vous trouvez devant cette fameuse salle des coffres.
Merci. Vous avez vu qu'il y a une porte blindée monumentale.
Oui.
Et une deuxième porte à grille. Toujours la sécurité, évidemment.
Alors, évidemment, maintenant, on va procéder à l'ouverture d'un coffre-fort vide, je vous rassure.
Donc, c'est le mien. Deux clés, hein.
Deux clés, effectivement.
C'est-à-dire que d'habitude, c'est le client qui a une clé et vous qui avez une clé.
Mm-hmm. C'est exact. Pour des raisons de sécurité. Dans laquelle il est possible de déposer des documents, oui. Des documents de valeur.
Oui, parce qu'il faut rappeler que dans un coffre, on n'y dépose pas de l'argent, mais ici, il y a parfois des documents d'art.
Après, il faut quand même savoir que dans la plupart de nos succursales ou nos agences, on a des coffres qui sont relativement petits. C'est véritablement prévu pour les documents. Mmh. Pour des objets qui seraient plus grands, on a quelques coffres particuliers, mais ça n'est pas l'usage essentiel. C'est surtout pour conserver des documents de valeur, des actes notariés, des choses pour lesquelles on a aussi un attachement sentimental et que les gens ne veulent absolument pas perdre, parce qu'on sait que dans la salle des coffres d'une banque, la sécurité est maximale. Et seul le client sait ce qu'il y a à l'intérieur de son coffre. La banque n'a aucun droit de vision
vous,
sur le...
Vous ne le savez pas.
Non.
Sortie de boîte.
Cyril Meury, est-ce que votre philosophie en matière de sécurité a aussi évolué ?
Si vous voulez, la sécurité, elle est dictée évidemment par ce qui se passe, par l'actualité. Donc évidemment, c'est un point auquel on attache énormément d'importance. Donc par rapport à ça, c'est clair que les vitres blindées ne nous exonéreraient pas de problèmes. Donc on a voulu à quelque part être beaucoup plus transparent vis-à-vis de la clientèle, raison pour laquelle on a refait toutes nos agences. Vous remarquerez qu'elles sont beaucoup plus lumineuses. Et puis on a arrêté avec ces sacro-saints blindages de l'époque parce que ça servait pas à grand-chose à ce niveau-là.
Mais ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que s'il y a un braquage, les clients à l'intérieur de la banque sont plus en danger que par le passé ?
Non, je dirais plutôt au contraire. Je dirais plutôt au contraire. Donc évidemment, vous vous doutez bien qu'on a analysé en long et en large la situation pour essayer d'offrir aux collaborateurs comme aux clients des agences qui soient les plus sûres possibles. Et je crois qu'on s'en tire relativement bien à ce niveau-là.
Ce qui va avec l'aménagement, c'est également le dress code, comment les collaborateurs sont habillés. Dans le domaine bancaire, on voit souvent costard cravate, c'est ce que vous portez d'ailleurs ce soir. Quel est le dress code à l'UBS ?
Écoutez, le dress code pour nos collaborateurs dans le hall, c'est une ligne de conduite qu'on souhaite donner. Il n'est pas strict absolument, mais en gros, c'est un costume plutôt foncé. C'est une chemise blanche et puis c'est une cravate dont on a abondamment parlé. D'ailleurs, qu'on a revu dans l'intervalle, c'est une cravate rouge.
Qui a décidé ce dress code ? Est-ce que c'est les dirigeants ou est-ce que les employés ont pu donner leur avis ?
Alors évidemment, je suis assez bien placé pour en parler puisque j'étais là lorsque j'étais en Valais ces 7 dernières années. J'étais le responsable de l'agence, la première agence en Suisse romande à venir sous la nouvelle mouture. Donc par rapport à ça, évidemment, on a sondé un certain nombre de collaborateurs sur les tenues vestimentaires qu'on voulait mettre en œuvre. Et puis, encore une fois, force est de constater que pour la plupart des collaborateurs, c'est déjà des tenues qu'ils avaient dans leur garde-robe. Donc ça a plutôt été perçu positif. Effectivement, le fait de donner une ligne de conduite. Et un élément auquel je suis, sur lequel je suis très surpris, c'est qu'on sonde régulièrement notre clientèle et je suis surpris de voir encore à quel point les gens sont attachés au costume et à la cravate chez nos clients.
Comment vous l'expliquez ?
Écoutez, moi, tendanciellement, je pense, mais ça n'engage que moi, que d'ici quelques années, je pense notamment la cravate risque de disparaître. Mais je pense que les gens ont une conception encore du domaine bancaire qui est relativement sérieuse. Donc on s'attend à avoir quelqu'un, un interlocuteur qui est bien habillé. Je vois ça, en fait.
On l'a dit, on le répète, vous êtes depuis peu directeur de la direction de la région romande d'UBS. Quelle est l'importance de la Suisse romande dans la stratégie d'UBS ?
Bon, elle est très très importante. On est là tout simplement la deuxième plus grande région en Suisse après Zurich. Donc si vous voulez, on a 10 régions en Suisse et puis la Romandie est ni plus ni moins que la deuxième région la plus importante. Donc Dieu sait qu'on attache beaucoup beaucoup d'importance à cette région.
Qu'en est-il de l'arc jurassien plus précisément ?
Alors écoutez, moi je suis très attaché à cette région. C'est une part importante entre Neuchâtel et le Jura. Donc c'est deux des quatre cantons qui sont sous la bannière romande, en tout cas dans l'organisation UBS. Et ça représente évidemment un point important. J'en veux pour preuve qu'on a 10 agences et 120 collaborateurs qui y travaillent.
Vous avez principalement deux types de clients, les privés, les entreprises. Laquelle de ces deux catégories est la plus importante ?
On ne peut pas raisonner comme ça. C'est clair qu'il y a un tissu économique constitué de pas mal de PME, donc de petites et de moyennes entreprises. Il y a des gros groupes, notamment dans le secteur de l'horlogerie, qui sont présents. Donc évidemment, c'est un pan de l'activité, les entreprises, qui est extrêmement important pour UBS. À même titre que, sans entrer dans les détails, on a de nombreux clients privés qui nous font confiance et ils sont tout aussi importants que la clientèle entreprise.
On imagine que c'est quand même les entreprises qui vous permettent de générer davantage de bénéfices, c'est le cas ?
Pas nécessairement, parce qu'il faut s'imaginer que dans la masse de clientèle qu'on a, 90% c'est des clients privés. Donc Concrètement, on a la majeure partie de nos clients qui sont des clients privés d'UBS. Donc par rapport à la masse, c'est plutôt même la clientèle privée qui rapporterait le plus. Ceci étant dit, pour une activité, pour une entreprise comme UBS, on attache de l'importance à être présent sur tous les segments de clientèle.
Petite parenthèse, à présent, vous avez peut-être l'horloge sur votre four qui n'indique plus l'heure exacte. Pourquoi et depuis quand? Eh bien, c'est le thème de la chronique horlogère hebdomadaire de Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure.
Je suis en retard, affreusement en retard.
Si vous croyez que ça m'étonne, votre horloge est détraquée, elle retarde de 2 jours.
De 2 jours?
2 jours et 10 secondes.
2 jours et 10 secondes, c'est beaucoup, mais il suffit parfois de quelques minutes pour être totalement décalé. Exemple avec Séraphin. Quand Séraphin se lève le matin, il va dans sa cuisine pour prendre son petit déjeuner.
Il va bientôt arriver, l'ami Ricoré.
En fait, Séraphin boit du thé.
Il trouva son thé délicieux.
Mais c'est une autre histoire.
Mais ça, c'est une autre histoire.
Bon, Séraphin est donc dans sa cuisine. Ouais, oh, ça suffit maintenant. Séraphin est dans sa cuisine et boit son thé en mangeant ses tartines comme tous les matins avant de partir au travail. Séraphin a l'habitude d'aller se brosser les dents à 7h15 avant de se rendre à l'arrêt de bus. Un matin, comme d'habitude donc, Séraphin regarde l'heure sur son four. 7h09, il a encore le temps. À 7h15, selon l'horloge de son four, il se lève, rejoint la salle de bain et se brosse les dents. Et Séraphin sort, mais le bus est déjà passé. Ce n'est pas le bus qui était en avance, c'est Séraphin qui est en retard de plusieurs minutes. La faute à l'horloge de son four. Et des mésaventures comme celle-là, nous sommes nombreux à en avoir vécu. Les horloges de nos appareils électroménagers ont pris du retard, 6 minutes de retard depuis début janvier. Mais pas la peine de courir dans votre magasin préféré pour racheter un four micro-ondes, il fonctionne très bien. Pour trouver le coupable, il faut regarder du côté du Kosovo. D'abord, il faut savoir que les horloges des appareils électroménagers fonctionnent grâce au courant électrique, contrairement à celles des ordinateurs et des téléphones qui sont synchronisés sur Internet. L'heure indiquée sur les écrans de vos appareils électroménagers se régule sur la fréquence maintenue à 50 Hz par seconde. Le Kosovo, qui a récemment décidé de baisser sa consommation d'électricité, a également baissé sa production, à la suite, semble-t-il, d'un désaccord avec la Serbie. Du coup, le pays a injecté moins d'électricité dans le réseau européen. Pour compenser la baisse de production du Kosovo, la Serbie pourrait produire plus, mais elle refuse. D'autres pays comme la France ou l'Allemagne pourraient produire davantage, mais refusent également pour ne pas assumer les surcoûts qui seraient au final répercutés sur la facture des clients. Il faudra sûrement plusieurs mois pour que le Kosovo et la Serbie se mettent d'accord et remontent leur production d'électricité. Les horloges de nos appareils électroménagers se remettront alors à l'heure. D'ici là, vous pouvez toujours les régler manuellement.
Pile à l'heure.
Cyril Meury, on arrive au terme de cette émission. Quelles sont vos perspectives futures personnelles?
Écoutez, personnel, je ne sais pas. Je ne tire jamais de plan sur la comète. Concrètement, mon objectif, c'est de bien me faire à ces activités. Je crois qu'on a tout pour bien faire. On a un tissu économique très intéressant en Romandie. On a des collaborateurs de qualité. On a, je pense, investi dans de très, très bons défis. Et je pense qu'on entame une période qui est à la fois passionnante et complexe. Et je crois qu'on a tout pour bien faire chez UBS. En tout cas, je me réjouis de vivre cette période parce qu'elle est extrêmement formatrice et intéressante.
Dans 10 ans, comment est-ce que vous voyez cette banque évoluer ?
Je pense que le paysage dans le domaine bancaire risque d'évoluer. Donc je pense que tendanciellement, il risque d'y avoir moins d'établissements bancaires. Et puis par rapport à ça, je pense qu'encore une fois, UBS, par rapport à sa taille, qui lui confère certains avantages et certains inconvénients, a tout pour sortir son épingle du jeu.
Et dans 10 ans, vous serez encore là ?
Je serai encore là.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir, Cyril Meury. Très bonne soirée.
Merci.
La semaine prochaine, je vous propose de nous plonger dans la comptabilité, la fiscalité et les chiffres. Je recevrai Claude Burgdorfer, un expert comptable qui a monté son entreprise Révi Expert il y a 2 ans. Je vous rappelle que toutes les émissions sorties de boîte peuvent être réécoutées sur notre site internet. À la semaine prochaine et excellente soirée.
Sortie de boîte.